Rencontre spirituelle aujourd'hui, il sera question de Saint Claude la Colombière, un jésuite qui a été le directeur de Sainte Marguerite Marie, qui a reçu ses fameuses révélations au sujet du Sacré-Cœur, de l'amour donc de Jésus, un amour brûlant, un amour dévorant. Et il est mort en 1682 et il a été canonisé il y a à peine quelques années. J'ai intitulé l'émission un peu « Vivre cœur à cœur avec Dieu ». C'est le sens de sa vie, au fond. Vivre cœur à cœur avec Dieu. Et il l'a fait. Il est mort tout jeune, 41 ans. Un jésuite remarquable, dont il est question, d'ailleurs, dans l'histoire littéraire du sentiment religieux en France, du fameux abbé Henri Bremond, ouvrage magistral, n'est-ce pas, qui a été publié chez Armand Collin. Dans le tome 6, il dit à un moment donné, j'aime bien ce qu'il dit, qu'il a plus d'intelligence et plus de goût que d'autres autour de lui, et que le père Claude, la Colombière, sera canonisé quelques jours certainement. Et pourtant, c'est écrit il y a bien longtemps. Et bientôt peut-être, dit-il, demain, s'il ne tient qu'à moi. Oh, c'était publié, ça, écrit il y a longtemps. Ça date début du siècle, facilement. Et il avait bien, bien raison, car Claude la Colombière, qui a été béatifié en 1829 par Pie XI, et je vous avais d'ailleurs raconté sa vie en détail il y a bien longtemps, le 15 février 1996, c'était l'émission numéro 208, sans doute que certains d'entre vous l'avez, eh bien, vous aurez plus d'explications sur sa vie qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais m'étendre sur sa dévotion au Sacré-Cœur, sur ce que c'est que cette fameuse dévotion au Sacré-Cœur. Ça peut être risible, mais ça peut être très beau, extraordinaire même. Et donc, il a été canonisé, Claude la Colombière, le 31 mai 1992, par Jean-Paul II. Le pape, dans son homélie, a d'ailleurs rappelé ce qui a particulièrement marqué la vie et l'œuvre de ce jésuite. Ses liens spirituels avec Sainte Marguerite Marie, comme je l'ai dit, et la part qu'il a pris avec elle pour la propagation du culte du cœur du Christ, qu'on appelle parfois, comme à la pierre qui vire, le cœur meurtri, et surtout qu'on appelle le Sacré-Cœur. Claude la Colombière est né dans le diocèse de Grenoble, donc au pied des Alpes, dans le sud de la France, un 2 février 1641. Juste avant la fondation de Montréal, quoi. Il était le troisième d'une famille de 7 enfants, dont 2 sont morts en bas âge, donc ils étaient 5 enfants. Et 3 sur 5 se sont fait prêtres. Il y a eu Claude, d'abord, qui est devenu un saint, et ses frères Pierre et Joseph, qui ont eu des vies sacerdotales importantes. Sa sœur Marguerite est devenue visitandine, la même congrégation que Marguerite Marie à la Coque, qui a reçu les révélations du Sacré-Cœur. Elle était religieuse, elle, à Condrieu. Et un seul de la famille, un garçon, Humbert, s'est marié, l'aîné. Mais immédiatement après ses études, là, Claude la Colombière, il avait fait ses études à Lyon, au Collège de la Trinité, mais Claude entre au noviciat d'Avignon. En 1658, il est encore jeune, 17 ans, et il est désireux de répondre à l'appel de Dieu. Mais il nous dit lui-même avec une horrible aversion de la vie à laquelle je me suis engagé. Ça le tentait pas plus que ça, mais c'était Dieu. Répondre à l'appel de Dieu et faire ce que Dieu veut. C'est toute sa vie, ça. Comme ça qu'il est devenu un saint, à vouloir faire ce que Dieu veut de lui. Même si ça le tentait pas d'être jésuite. Et c'est à Avignon, il l'a pas regretté par après, hein. C'est à Avignon qu'il fait ses études, donc, au noviciat de philosophie, et qu'il est au collège professeur de grammaire et de belles-lettres, comme font souvent les jeunes jésuites, hein. Et c'est comme ça que j'ai appris ma grammaire, puis toutes sortes de choses au collège Brébeuf avec des jeunes jésuites, qui n'étaient pas prêtres encore, qui n'avaient pas fait leur vœu pour toujours. Alors, il est là pour y étudier la théologie à Paris 4 ans. Et puis, ça, c'est de 1666 à 1670, avant ses 30 ans, quoi. Et en même temps, comme répétiteur, il donne des leçons imaginées aux deux fils de Colbert, le fameux Colbert. Il passe ensuite 4 ans au Collège de la Trinité à Lyon, il y revient. Et puis, à la fois professeur de rhétorique, directeur spirituel des élèves et prédicateur. Un vrai jésuite comme tant de jésuites. Savez-vous que les jésuites faisaient tout ça avant de devenir prêtre, après 11-12 ans de préparation et de toutes sortes de choses? En septembre 1674, bon, il a 33 ans, il commence à la maison Saint-Joseph de Lyon sous la direction du père Attiot, sa 3e année de probation, et c'est là que, durant la grande retraite de 30 jours, il s'engage d'une façon incroyable, par vœu, il s'engage par vœu à l'observation entière de ses règles. C'est un vœu épouvantable, ça, obéir constamment. Et l'obéissance l'a rendu libre. C'est étrange dans la foi chrétienne comme les paradoxes sont nombreux, hein? Jésus le dit bien sur le mont des béatitudes, hein? Heureux les pauvres, heureux ceux qui souffrent, etc. Mais il s'en explique, et tout son évangile est nourri de ça. Alors, c'est là aussi, à Lyon, qu'il fait profession le 2 février, le jour de son anniversaire, 1675, à 34 ans. Il est immédiatement après nommé supérieur de Paray-le-Monial. Paray-le-Monial, c'est beau, il y a une basilique romane magnifique, là. C'est un centre aussi de réunion de charismatiques aujourd'hui en très, très grand nombre, Paray-le-Monial. Alors, c'est là aussi qu'il y a le couvent, à l'époque, là, des visitandines. Il est donc confesseur extraordinaire de ce qu'on appelle la visitation, ou les visitandines, ou le monastère fondé par sainte Jeanne-Françoise Frémiot de Chantal, ou sainte Jeanne de Chantal, si vous voulez, et Saint-François de Sales, hein. Puis il entre pour la première fois en rapport avec sainte Marguerite Marie, dont il devient, par une volonté expresse de Dieu, le directeur, en 1675. Et je dis une volonté expresse de Dieu. C'est que il s'engage dans l'apostolat avec une grande générosité, dit-il, pour faire beaucoup pour Dieu, il faut être tout à lui. Mais c'est pas le plus bel éloge qu'on peut reconnaître et qu'on peut lui adresser. Le plus bel éloge qui lui est décerné, il vient du Seigneur Jésus lui-même, lorsque Jésus se présente, ou le présente plutôt, à Marguerite Marie, à sainte Marguerite Marie, et en disant, en montrant le Père la Colombière, ça peut sembler curieux, hein, Jésus qui montre le Père la Colombière à Marguerite Marie, puis qui lui dit, « C'est mon fidèle serviteur et parfait ami. » Alors, Marguerite Marie, la sœur, là, elle était vraiment humble, c'est ce qui lui a fait croire aux révélations qu'elle recevait. Cette humble visitandine de Paray-le-Monial a déjà bénéficié de grâces mystiques exceptionnelles, hein, qui rend sa supérieure perplexe. Sa supérieure est bien mal prise avec tout ça. Et le père Claude, la Colombière, la rassure, la supérieure. Il dit « Tout cela vient de Dieu. » Puis il fait plus qu'identifier, avec une grande sûreté de jugement, le message qu'elle a reçu, là. Il va désormais l'aider à le transmettre à tout l'univers, à tous les hommes, à toutes les femmes, c'est son rêve. Ce message consiste à quoi? À rappeler l'amour de Dieu contenu dans le cœur du Christ, avec son impact missionnaire, évidemment. C'est comme ça que l'a évoqué d'ailleurs Jean-Paul II lors de la canonisation, là, en 1992, en disant « Pour évangéliser aujourd'hui, il faut que le cœur de Jésus soit reconnu comme le cœur de l'Église. » Saint-Claude la Colombière, donc jésuite, ne reste à Paray-le-Monial que 18 mois, de février 1675 à septembre 1676. Puis là, le mois suivant, 13 octobre 1676, il arrive à Londres. C'est curieux, il s'en va dans un pays protestant, dans un pays anglican, avec les persécutions puis tout ça, en qualité de chapelain puis de prédicateur ordinaire de la duchesse d'York, qui est demeurée catholique, qui est catholique, elle, Béatrice d'Est Modène. Elle était née catholique. Sa vie au palais Saint-James, important palais, en pleine persécution, est terrible. Il souffre. Il souffre beaucoup des complications que lui font les protestants ou les anglicans. Il a fait cependant quelques conversions. Mais il est dénoncé au moment où l'on poursuit les auteurs prétendus du complot imaginaire inventé par Titus Oates. C'est terrible, cette histoire, mais j'ai pas le temps de vous la raconter, c'est très complexe. C'est un procès épouvantable, un complot effroyable. Il est arrêté de toute façon dans la nuit du 24 novembre 1678, donc pas longtemps après son arrivée, 2 ans. Et après 5 semaines de prison, il est expulsé d'Angleterre, mais son séjour là, dans le cachot de King's Bench a achevé de ruiner sa santé. Et ça a aggravé son mal de poitrine qui est très répandu, j'en souffre un peu. Le mal de poitrine ces jours-ci, hein, ici, terrible cette épidémie actuellement. Faites attention à vous. Alors lui, son mal de poitrine, qui l'a fait souffrir pendant quelques mois, puis rentré à Lyon, le père Lacolombière est chargé de la direction spirituelle des philosophes puis du soin d'une congrégation d'élèves, mais ses forces le sont complètement épuisées. Puis en septembre 1681, il revient par El Monial. Il y meurt vraiment comme un saint le 15 février 1682, à 41 ans, comme je vous ai dit. Donc béatifié en 1929, et il est canonisé en 1992. Pour conclure cette petite vie en résumé, là, on peut citer encore le millier de canonisation de la bouche de Jean-Paul II. Dans l'histoire, dit Jean-Paul II, il y a des moments particuliers. Écoutez bien, c'est des moments particuliers, des lieux et des personnes choisies qui redécouvrent presque et révèle à nouveau cette vérité éternelle et impérissable de l'amour. Hier, c'était la fête de l'amour. J'ai pas vu une ligne sur l'amour de Dieu, l'amour du cœur de Jésus pour nous. On va le faire aujourd'hui ensemble, si vous voulez bien. C'est là qu'est la liberté. C'est là qu'est la joie. C'est là qu'est pour l'éternité notre bonheur. Oui, c'est Jean. Des personnes choisies qui redécouvrent presque et qui révèlent, dit le pape à nouveau, qui révèlent à nouveau cette vérité éternelle et impérissable de l'amour. Et il ajoute le pape, Claude Lacolombière est sans doute l'une de ces personnes. Et nous, ne le sommes-nous? Le plus beau titre de gloire du père Lacolombière, de toute façon, c'est d'avoir été au moment peut-être le plus critique de la vie intérieure de Sainte Marguerite Marie. Lorsque Duvers, directeur spirituel, avait prétendu qu'elle était dans l'illusion, dit le guide de la foi prudent et hardi, lui, Saint-Claude de la Colombière. Puis avec une sûreté de vie remarquable, il s'est rendu compte, en elle, en Sainte Marguerite Marie, qu'il y avait là une mission divine. Commença à 2 indices qui ne trompent pas, l'humilité, comme je vous ai dit, puis l'obéissance. Et ça, ça a rassuré Sainte Marguerite Marie. Ça a convaincu sa supérieure, la mère de Saumaise, qui hésitait beaucoup, mais tout en indiquant à sa dirigée la nécessité qu'il y a pour elle de s'abandonner à l'action de Dieu, il a eu bien soin de la maintenir dans l'humilité, dans la confiance, dans la générosité sans borne. Et après la grande révélation de juin 1675 de la part du Christ, il sera lui-même très discrètement mais très efficacement le premier apôtre de la dévotion au Sacré-Cœur, tel que notre Seigneur venait de l'enseigner à cette grande sainte visitandine. Alors, les paroles de ce psaume 125, c'est quand le Seigneur ramena les rapatriés de Sion, nous fûmes comme des gens qui rêvent. Alors, notre bouche se remplissait de rire et notre langue de chants de joie. Alors, on se disait parmi les nations, c'est grand, oui, c'est grand ce que le Seigneur accomplit pour eux. Oui, ce que le Seigneur accomplit pour Marguerite Marie, pour Claude Lacolombière, est immense. C'est cette révélation, oh, qui date déjà de nombreux siècles, avec Sainte Gertrude et bien d'autres, de son amour. Hein. Vous savez que c'était un homme très cultivé que Saint Claude Lacolombière. Il avait beaucoup lu, il avait lu les mystiques, hein, ça lui était pas inconnu. Et on le voit dès le début d'une importante retraite que font les jésuites, il manifeste le désir de lire Sainte Thérèse d'Avila. Et sans doute que quand on pratique l'oraison, et paraît-il que quand l'oraison est extraordinaire, il y a de grandes douceurs, mais ça ne l'attire pas, lui. Ce qu'il préfère, c'est des vertus solides. Il veut pas les douceurs, les consolations, c'est les vertus. Qu'est-ce que ça veut dire, des vertus? Ça veut dire être concret dans le concret, être très, très concret. Faire le bien concrètement, pas en rêver. Il ne sera ni surpris ni déconcerté quand il se trouvera devant l'âme de Sainte Marguerite Marie. Hein. Le trait le plus saillant est sans doute, chez lui, l'insistance qu'il apporte à l'accomplissement de la volonté de Dieu, concrètement, à être tout à Dieu, à contenter Dieu concrètement. Il dit qu'il veut faire tout ce que Dieu me commande. Il faut faire tout ce que Dieu me commande. Il écrit. Il écrit aussi à quel prix que ce soit, il faut que Dieu soit content. Il écrit aussi la sainteté. C'est une attache inséparable à la volonté de Dieu. Puis, il dit à un moment donné, « Saint, je veux le devenir, quoi qu'il m'en coûte. » Puis, regardez comme une illusion de se soustraire à la conduite de Dieu. Si plus tard il recommande si vivement ses dirigés la mortification puis la lutte contre leurs défauts, c'est qu'il a exercé contre lui-même cette espèce de combat, cette guerre de tous les instants. Et il nous dit, à un moment, contre quels ennemis il lui a fallu combattre. Il dit, ma passion dominante, c'est le désir de la vaine gloire. Parce que cultivé, il prêche très bien. Instruit, il est très renommé. Il est aimé, apprécié. Mais la vaine gloire, ça donne rien. Et il y revient perpétuellement et il prend de plus en plus conscience, comme les saints, que les dons qu'on a reçus, le talent qu'on a, l'intelligence qu'on a, les capacités qu'on a, etc., tout ça, c'est des dons de Dieu. Il s'accuse aussi de respect humain, de chercher à plaire aux autres hommes. Il nous dit enfin l'extrême sensibilité de son cœur, les combats qu'il prévoit. S'il veut vivre, dit-il, dans un parfait détachement des affections au milieu du monde. C'est dans les biographies que j'ai lues, j'en ai lu plusieurs, la biographie que j'ai préférée, c'est celle parue malheureusement il y a bien longtemps, c'est plus de 700 pages. C'est paru en 1943 et c'est signé du père Georges Guiton. C'est remarquable. Très, très beau. Vous savez, il a adhéré au message de réparation, comme on dit, c'est-à-dire de consolation du cœur de Jésus, de réparation de toutes les offenses qu'on lui fait. Que d'offenses on fait à Jésus à la télévision? Ça va se faire demain soir encore, là. À 7h à TQS, quelle horreur. Ça fait mal, hein? Et tous ces sacres et ces blasphèmes. Et ce mépris de l'Eucharistie, on n'y va plus. Ou on y assiste très distraitement, ou on célèbre ça comme si parfois, quelques rares prêtres, heureusement que ce ne sont que quelques prêtres, comme s'ils n'y croyaient guère. Très vite, une messe d'un quart d'heure. Quelle tristesse. Heureusement que c'est plein de bons prêtres et qu'on peut assister à de si belles messes. Il a donc adhéré au message de réparation, puis une miséricorde infinie qui caractérise les révélations du Sacré-Cœur à Sainte Marguerite Marie. Il a écrit d'ailleurs un texte sublime que je vous lis. Quelle miséricorde! Je l'offense et sans autre réparation que la douleur de l'avoir fait, il me pardonne. Je retombe et il me pardonne encore. Je l'offense tous les jours et il ne me rebute pas. Sa patience n'est pas épuisée par de si fréquentes rechutes. Si tous les jours je m'égare, et que je revienne tous les jours de bonne foi, bien il me reçoit avec joie, il me pardonne avec plaisir, et il oublie ma perfidie, il me rend tous mes biens spirituels avec un surcroît de grâce et de mérite. Il n'a pas moins d'empressement à me rétablir dans le premier état après 100 infidélités qu'il en eut après le premier égarement. Tant de preuves de ma légèreté ne l'empêchent pas de me pardonner sur ma parole. Quoique 1000 fois je l'ai trahi par mon inconstance, quoiqu'il prévoit que dès demain, peut-être qu'aujourd'hui même, j'oublierai ses bontés et mes résolutions. Oh miséricorde vraiment infinie, oh bonté digne d'un Dieu. C'est sûr que le père de la Colombière a hésité au sujet des messages qui ont été confiés à Sainte Marguerite Marie. Je vous l'ai dit. Mais il a tranché à la fin. Mais il faudrait pas conclure que c'était tout absolument nouveau, qu'il avait jamais entendu parler de ces choses-là, dès la fin du XIIIe siècle. Il y avait Sainte-Gertrude qui est morte en 1302. Elle a été admise à des visions absolument étonnantes, comme de reposer comme Saint-Jean sur la poitrine du Seigneur et d'écouter le cœur de Jésus. Elle dit qu'elle a éprouvé une jouissance ineffable aux pulsations très saintes qui faisaient sans interruption battre le cœur divin. Je vous ai dit qu'il était très cultivé, bien. Il était au courant de tas de choses. Et il a lu et connu ce que disaient des jésuites, surtout Saint Jean Eudes. Ainsi, pour connaître et prier le cœur de Jésus, ce cœur de chair, symbole de l'amour, Saint Claude la Colombière n'a pas attendu les confidences de Marguerite Marie. Ben non, pas du tout. Il a eu bien d'autres occasions. Parmi les spirituels du XVIIe siècle, il y a eu des laïcs, même, qui se sentaient attirés par le cœur divin de Jésus. L'un d'eux, qui, au moment des grandes révélations de Paray-le-Monial, touchait à sa dernière année, il est mort presque après, M. de Bernière, il avait publié un ouvrage qui s'appelait « Le chrétien intérieur ». C'est introuvable aujourd'hui, je crois. Que le père Claude de la Colombière aimait beaucoup ce livre. Il n'aimait pas s'en séparer. Il aimait lire ce laïc. Et la façon dont ce laïc, Bernière, là, est amené à parler du cœur de Jésus ne lui est pas particulière. C'est pour cela même qu'il a intérêt à le citer. Je vais vous le citer. Mais les préoccupations terrestres assaillent notre esprit quand on essaie de méditer sur ces grandes réalités. Que faire, donc? Alors, M. de Bernière écrit « Le cœur de Jésus est le centre des hommes. Quand notre pauvre âme sera distraite, il la faudra mener doucement au cœur de Jésus pour offrir au Père éternel les dispositions de ce cœur adorable, pour unir le peu que nous faisons avec l'infini que Jésus fait. » Et là, à la suite, il y a une résolution qui doit retentir sur toute la vie spirituelle. N'oubliez pas, c'est un laïc qui écrit cela, ce que je vous lis. « Ce divin cœur de Jésus sera donc désormais votre oratoire, mon âme. C'est en lui et par lui que vous offrirez toutes vos oraisons à Dieu le Père, afin qu'elle lui soit plus agréable. Ce sera votre école où vous irez apprendre la suréminente science de Dieu, toute contraire aux opinions du monde. Et puis alors, vous trouverez que toutes les maximes qui viennent de Dieu sont très purs et très sublimes. Ce sera votre trésor où vous irez prendre tout ce qu'il faut pour vous enrichir, soit la pureté, l'amour et la fidélité. Mais ce qui est le plus précieux dans ce trésor, ce sont les humiliations, les souffrances et les pauvretés. L'amour et l'estime de ces choses est un joyau si précieux qui ne se trouve ordinairement ou originairement et principalement que dans le cœur de Dieu fait homme. » C'est un laïc. Étonnant, hein? Comme pour bien montrer qu'il n'a pas oublié sa résolution, dans un de ses traités postérieurs qui contient ce que nous peut faire entrer dans le véritable sentiment de Jésus-Christ, bien Bernière intitule ainsi l'un de ses chapitres, « Le cœur de Jésus-Christ est le riche trésor de l'âme chrétienne. » Donc, je reviens au père de la Colombière, Saint Claude la Colombière, qui a rencontré Sainte Marguerite Marie en 1675, puis est devenu son conseiller spirituel. Il lui a adressé une belle lettre en 1679 à 38 ans, 3 ans avant sa mort, quoi. Il dit « Ma très chère sœur, dans le cœur de Jésus-Christ, je me suis privé jusqu'à aujourd'hui de la consolation que j'aurais eu à vous écrire, parce que j'ai cru que Dieu souhaitait de moi que je lui fisse ce petit sacrifice. Hélas, je vis d'une étrange manière et je sens que le regret que j'en ai et la plainte que j'en fais, bien loin de me justifier devant Dieu, me rendent encore plus coupable. Alors sa conscience est tourmentée un peu. Il dit, je ne sais ce qui m'empêche de devenir bon et d'avancer dans la voie de Dieu. Imaginez des saints qui se posent des questions comme ça. Je crois que le désir que j'en ai n'est pas assez pur. » Une bonne leçon qu'il nous donne. Hein? Je crois que le désir que j'en ai, là, n'est pas assez pur, de devenir bon, puis d'avancer dans la voie de Dieu. Alors, il dit aussi, il s'élève divers désirs en mon âme, d'entreprendre plusieurs choses, pour glorifier mon aimable maître. Mais, dans l'état où je suis pour ma santé, je crains que ce ne soit que des illusions et que notre Seigneur ne me juge pas digne de rien faire pour son amour. Il me semble que rien ne me serait difficile si je connaissais ce qu'il demande de moi. Et il dit plus loin, « Je ne puis parvenir à cet oubli de moi-même, ce qui me doit donner entrée dans le cœur de Jésus-Christ, d'où je suis par conséquent bien éloigné. » Il dit, « Ce serait pour moi une grande douceur si je pouvais enfin, après tant de temps passé dans la religion, découvrir par quels moyens je pourrais acquérir un entier oubli de moi-même. » Et il ajoute à la fin qu'il a été malade. Puis il dit, « La maladie était pour moi une chose absolument nécessaire. Sans cela, je ne sais ce que je serais devenu. Je suis persuadé que c'est une de mes plus grandes miséricordes que Dieu ait exercée sur moi. » Si j'en avais bien profité, elle m'aurait sanctifié. Oui, on peut profiter de sa maladie. Alors nous tous qui sommes grippés comme moi, là, bien, profitons-en pour purifier tout le reste. Si c'est possible. Avant de continuer, je voudrais vous donner des indications qui aident à comprendre comment Saint-Claude de la Colombière avait été bien préparé depuis plusieurs années à la dévotion au cœur de Jésus. Je vous rappelle qu'il y avait un usage chez les jésuites qui remonte jusqu'à un certain ouvrage du Père Nadal imprimé à Anvers en 1593, hein, c'est pas longtemps après la fondation des jésuites, de joindre l'image du Sacré-Cœur au monogramme IHS. Vous savez, on voit souvent ça, IHS chez les jésuites. Jésus, sauveur des hommes. Hein? Jésus, hominum, salvator. Et puis, il voulait donc joindre l'image du Sacré-Cœur au monogramme IHS pour figurer les armes pacifiques des jésuites. Et tout cela fait partie de ces voies secrètes hein, de Dieu qui, par des détours comme ça, prédisposent à leur mission les hommes et les femmes de son choix. Et cependant, quand il reçoit à lui, Saint-Claude de la Colombière, les confidences de Marguerite Marie, qui est appelé par le Seigneur, le fidèle serviteur et parfait ami, mais il hésite. C'est un signe manifeste que le message contenait quelque chose d'insolite et de nouveau. Et notre Seigneur, d'ailleurs, serait-il intervenu à plusieurs reprises avec une telle insistance si c'était agi simplement de confirmer une forme de dévotion puis de pratique déjà en honneur depuis des siècles. Ou s'il avait voulu plutôt approuver sans plus un culte existant, est-ce qu'il ne serait pas adressé de préférence à ceux qui avaient établi et propagé ce culte tel Saint Jean Eudes, pour ne citer que le plus célèbre? Or, il s'adresse à une pauvre fille, Marguerite Marie à la coque. Elle est d'une condition modeste, simple. C'est pas une grande dame, loin de là. Elle a presque pas de culture, est timide. Elle est même portée à se replier sur elle-même. C'est une religieuse cloîtrée sans aucun extérieur d'apostolat. Elle a jamais fait d'apostolat. Sauf à l'intérieur de son monastère. Il lui désigne pour directeur et pour garant donc un religieux, Saint-Claude de la Colombière, qui ne restera dans son entourage que peu de mois, qui va partir pour un pays lointain, l'Angleterre, où les catholiques sont sans influence, puis qui ne tardera pas à mourir, comme je vous ai dit tout à l'heure, à 41 ans. Est-ce que Jésus pouvait attester plus clairement que la réalisation de ce message ne serait pas l'œuvre des hommes, même pas de Claude de la Colombière, au fond, mais son œuvre personnelle à lui, Jésus, Fils de Dieu. Et entre le culte du Sacré-Cœur, en effet, tel qu'il se manifeste chez les spirituels du 17e siècle et celui de Paris le Monial, il existe tout d'abord cette différence. Que le premier, c'est un épanouissement, comme le couronnement d'études et de méditations qui sont survenus avant, là. C'est le fruit méritoire d'un travail en grande partie humain. Mais le second, là, celui de Paris le Monial, au contraire, tel qu'il est réclamé par l'intermédiaire de Marguerite Marie, Sainte Marguerite Marie, c'est un coup du ciel qui d'abord déconcerte. c'est le vouloir de Dieu qui s'impose à une âme. Contre toute prévision, dès le début de sa vie religieuse. Et cette dévotion, comme on l'a écrit, n'est pas son œuvre. C'est un évêque d'Autun qui écrit ça. Cette dévotion n'est pas son œuvre. Elle est le don du Christ qui la lui enseigne. Pour elle, évidemment, mais aussi et surtout pour les autres, pour nous tous. Si on veut bien ouvrir nos oreilles, ouvrir nos yeux. L'évêque ajoute, elle devient ainsi la cause de sa sainteté, de son activité extérieure et d'un apostolat pour lequel le Seigneur l'instruit, la sanctifie, puis la dispose avec une volonté si puissante que cette petite sainte de rien du tout ne sait plus vouloir que ce qu'il veut. Alors, d'une manière éclatante se réalise pour Sainte Marguerite Marie et sa mission, le mot évangélique, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi afin que vous portiez du fruit. Il est trop clair, cependant, que cette intervention du Christ Jésus ne pouvait tendre à présenter aux fidèles un culte qui était entièrement ignoré. Jusque-là, je vous l'ai dit, que la dévotion au Sacré-Cœur soit uniquement fondée sur les révélations de Paris de Monial, c'est non seulement du point de vue historique une erreur, il y a des gens qui pensent ça. Non, c'est une pensée qui n'a jamais pu trouver audience dans un esprit qui connaît l'histoire de l'Église. Puis du dogme chrétien, d'ailleurs. C'est le cardinal Biot, qui était un cardinal remarquable. Il y a écrit ceci, je vous le lis, puis c'est très important. « Jamais le culte de l'Église ne peut avoir pour fondement des révélations privées. Le culte de l'Église ne s'appuie que sur le dépôt de la foi. Ce dépôt, depuis longtemps scellé, que lui ont légué les apôtres et qui est contenu dans l'Écriture et la Tradition. Si donc, quelques révélations privées a aussi sa part dans l'établissement d'un culte public, d'une fête liturgique, d'une dévotion catholique, ce ne pourra être qu'à titre de cause purement occasionnelle. Alors, reste à déterminer ce qu'il y avait de nouveau dans les désirs du Christ manifestés à Paris Monial. Ces désirs simplifient tout d'abord et précisent l'objet même du culte que l'on doit au Sacré-Cœur. Pour le pugiliste des apôtres du Sacré-Cœur de cette époque, Saint Jean Eudes, fondateur des Eudistes qu'on connaît ici au Québec, qui avait en 1672 obtenu des évêques de Normandie l'approbation d'une fête pour ses diverses communautés, l'objet de la dévotion au cœur de Jésus était assez complexe. Hein? Il embrasse à la fois le cœur corporel de l'homme-Dieu, son cœur spirituel et son divin cœur. Alors le cœur corporel, le cœur spirituel, le cœur divin. Trois cœurs, déclare le saint, qui ne sont qu'un seul cœur. Parce que son cœur divin étant l'âme, le cœur et la vie de son cœur spirituel et de son cœur corporel, il les établit dans une si parfaite unité avec lui, que disons que ces trois cœurs ne sont qu'un cœur, très unique, qui est rempli d'un amour, écoutez bien, infini, au regard de la très sainte Trinité, et d'une charité inconcevable au regard des hommes. Une charité inconcevable au regard des hommes. Alors, ce sont des expressions sans doute un peu trop compliquées pour définir ce qu'est cette dévotion destinée à l'ensemble du peuple chrétien qui souvent, surtout à l'époque, ne savait pas lire ni écrire. Le message de Paris le Monial, très courageusement, il simplifie tout ça. C'est sur le cœur de chair, symbole de l'amour, que ce message fixe nos regards. Et sans exclure, évidemment, l'amour incréé du Christ, celui dont il aime comme Dieu, c'est nettement là, sur son amour créé, celui dont le Verbe incarné aime en tant qu'homme, il y a 2000 ans, que ce message attire l'attention. Lui, le ressuscité et le vivant pour toujours. Autre précision plus caractéristique. Jésus, à Paris le Monial, ne se contente pas de manifester son amour, un amour passionné, allant jusqu'à s'épuiser et se consumer pour les hommes. Il rappelle avec insistance son amour. Son amour. Son amour qui est payé d'ingratitude. qui est méconnu, qui est outragé. Le cœur qu'il propose à nos hommages est bien toujours le cœur tout aimant et tout aimant. Celui qui a des flammes ardentes, on le voit au-dessus du cœur, dans les dessins. Oui. Des trésors infinis dans ce cœur. C'est un endroit idéal pour réfléchir, pour offrir à Dieu, son Père, nos adorations puis nos actions de grâce. Son cœur, c'est un refuge contre les tentations. C'est un asile aussi. Et quand il pleut, mauvais, un asile. C'est un asile aussi quand on se sent coupable. C'est un asile pour pleurer nos péchés, pour obtenir les grâces de lumière et de force nécessaires à notre vie chrétienne. Mais c'est d'une manière spéciale un cœur qui, comme on a dit, environné de la couronne d'épines et surmonté de la croix. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire un cœur blessé, qui au jardin des Oliviers a pu souffrir quand tout le reste de sa passion, quand il s'est senti abandonné de tous. Surtout à cause des mépris, des irrévérences, des sacrilèges et froideurs qu'il prévoyait lui-même dans l'avenir, et surtout de nos jours, c'est terrible actuellement. Et c'est surtout pour ce cœur délaissé, symbole de l'amour méconnu, qu'il réclame nos hommages de réparation, comme on dit traditionnellement, j'aime mieux de consolation. Demain, je vais vous parler des missionnaires de la Consolata, de la Consolatrice Marie, Consolatrice. Dans l'encyclique Miserentissimus Redemptor, Pie XI, qui a craint sans doute que certains ont pu réduire cet aspect de réparation dans le culte du Sacré-Cœur, le rappelle avec force. Quand le Christ, écrit-il, apparaissait à Marguerite Marie, lui dévoilait son infinie charité, il laissait en même temps percevoir une sorte de tristesse en se plaignant des outrages si nombreux, si graves, qu'elle lui fait subir l'ingratitude des hommes. Puissent ses paroles d'alors se fixer dans l'âme des fidèles et ne jamais s'en effacer. Oui. Aimons-le, mon Dieu. Le pape Pie XI, dans cette belle encyclique Miserentissimus Redemptor, il fait même de l'amende honorable, comme on disait à l'époque, on parle plus de ça maintenant, ou de la réparation, si vous voulez, l'un de nos principaux devoirs envers le cœur de Jésus. C'est un devoir de justice et d'amour. C'est un peu comme quand on a fait du chagrin à sa mère ou à son père. On a fêté les fêtes de l'amour hier, on sait ce que c'est quand on a fait du chagrin à l'être qu'on aime et qui nous aime tellement. On veut réparer. Au lieu de lui offrir 3 roses, on lui en offre 100, ou je sais pas, 3 douzaines. On veut réparer. C'est normal, c'est humain, et c'est beau. Il faut des compensations qui sont dues à l'amour incréé, dit le pape, pour l'injustice qui lui est infligée par les négligences de l'oubli puis par les injures de l'offense. Puis c'est la pratique de cette amende honorable, comme on dit, c'est l'expression, que Pie XI sanctionne de sa suprême autorité apostolique, dit-il, et ordonne et prescrit, c'était le langage de l'époque, pour la fête du Sacré-Cœur. Il écrit afin que toutes nos fautes soient déplorées, qu'on pleure sur nos fautes, quoi, et que soient réparés les droits outragés du Christ souverain roi et Seigneur très aimant. Souverain roi, c'est-à-dire celui qui règne sur notre avenir comme sur notre état présent, puisqu'il est notre Créateur et celui qui nous aime plus que tout. C'est impossible d'être plus catégorique que ce pape, pour accentuer sa pensée, pour l'aggraver dans l'esprit des fidèles. Le pape a fait composer pour cette fête un nouvel office, très très beau, où il était question du cœur blessé par nos péchés, et que nous devons un affectueux hommage de piété à l'égard de Dieu. Cependant, la dévotion que le Christ à Paris Monial réclame pour son cœur ne se limite pas à la réparation. Elle est infiniment plus vaste, et la réparation n'est qu'un moyen. N'oublions jamais que ça, que le but poursuivi par Jésus à ce moment-là est toujours celui, aujourd'hui, qui lui est dû et qui lui a été dès l'origine fixé par Dieu, d'être pour nous, comme dit saint Paul, justice, sanctification et rédemption. Il est notre justice. Il est notre sanctification. Il est notre rédemption, c'est-à-dire notre salut, notre libération. La rédemption, c'est ce que ça veut dire, la libération. Se libérer de son poids, du péché, de son moi niaiseux. Et d'enfin sortir de notre coquille comme un papillon qui sort de son cocon. Ou un enfant qui naît dans le cri et finalement le sourire. Nulle autre préoccupation pour cet éternel vivant et à la droite de son Père. Cette préoccupation, encore aujourd'hui, ce qui pousse Jésus à révéler son cœur, c'est là, déclare Jésus, comme un dernier effort de mon amour. Et s'il enseigne lui-même certaines pratiques réparatrices, comme communion, heure sainte, amende honorable, comme on disait autrefois, s'il sanctionne par des promesses sa demande d'un culte particulier pour ce cœur, c'est parce qu'il sait mieux que personne, lui, l'importance unique de la sanctification qu'il nous veut. C'est très important. Nous sommes tous appelés à la sainteté, tous sans exception. Jésus dit d'ailleurs, « Je n'ai rien épargné pour vous la mériter, la sanctification. Elle m'a coûté ma vie. Acceptez donc d'être des saints. » Il dit ça. Acceptez donc d'être des saints. Toutefois, ce n'est pas cet appel si net à la réparation, bien moins encore cet appel à l'amour total, qui peut expliquer les premières hésitations du père Lacolombière. Tout ça, ça lui plaisait beaucoup. C'est le fait que il fallait que ça sorte d'une fête privée, que ça devienne un culte public. Non pas seulement de quelques personnes qui sont privilégiées puis qui comprennent le sens, mais de l'ensemble des fidèles dans tout l'univers. C'était ça le message. Et ça, Père Lacolombière hésitait beaucoup. Ben oui, Jésus ne se contente pas d'une fête privée, restreinte à une communauté ou à quelques diocèses, là. Il réclame, du premier coup, une solennité pour l'Église entière, et c'est là, sans doute, ce qui, dans le message de Parilmonial, semble au bienheureux Claude Lacolombière, Saint Claude Lacolombière, le plus nouveau, le plus difficile à admettre et surtout à réaliser. Sainte Marguerite Marie, la voyante, avait beau lui dire, « Quand je verrai tout le monde déchaîné contre cette dévotion, je ne désespérerai jamais de l'avoir établie, car le Maître m'a certifié qu'il régnerait malgré ses ennemis. » Est-ce qu'on ne pouvait pas craindre que ce projet ne soit de la part d'une pauvre sœur visitandine, une espèce d'ambition folle, une illusion, comme on dit souvent, une chimère, une espèce de fantôme? Évidemment, c'est une époque de jansénisme, hein? Et puis, essayer de décider à une chose aussi nouvelle, les évêques de France, puis aussi les gens de Rome, du Vatican, ça pouvait être difficilement l'œuvre d'un seul jour. Hein. Ça a pris du temps, mais ils sont arrivés. Jésus, vous êtes le seul et le véritable ami. Vous prenez part à tous mes maux. Vous vous en chargez, dit Saint-Claude la Colombière. Vous savez le secret de me les tourner en bien. Vous m'écoutez avec bonté lorsque je vous raconte mes afflictions. Et vous ne manquez jamais de les adoucir. Je vous trouve toujours et en tout lieu. Vous ne vous éloignez jamais. Et si je suis obligé de changer de demeure, je ne laisse pas de vous trouver où je vais. Vous ne vous ennuyez jamais de m'entendre. Vous ne vous lassez jamais de me faire du bien. Je suis assuré d'être aimé si je vous aime. Vous n'avez que faire de mes biens et vous ne vous approuvez pas en me communiquant les vôtres. Quelque misérable que je sois, un plus noble, un plus bel esprit, un plus saint même ne m'enlèvera pas votre amitié. Et la mort qui nous arrache à tous les autres amis doit me réunir avec vous. Toutes les disgrâces de l'âge, de la vieillesse et de la fortune ne peuvent vous détacher de moi. Au contraire, je ne jouirai jamais de vous plus pleinement. Vous ne serez jamais plus proche que lorsque tout me sera le plus contraire et le plus difficile. Vous souffrez, vous endurez mes défauts. Avec une patience admirable, Seigneur Jésus. Mes infidélités même, mes ingratitudes ne vous blessent pas tellement que vous ne soyez toujours prêt à revenir si je veux. Ah oui, je veux.